RCF. Bonjour, le 18-19 régional sur RCF Reims-Ardennes. Évidemment, on reviendra sur la marche des vocations tout à l'heure avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui sera avec nous, en sachant que demain, samedi 4 mai, c'est un grand rassemblement des 7 diocèses. Ce sera à la cathédrale, puis à la basilique Saint-Remi le soir, après une après-midi, dans les locaux de la Maison Saint-Sixte, au sein de l'ICP, l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. L'actualité, c'est bien sûr, on y reviendra, Steele, bien sûr, Will Steele, l'entraîneur du Stade de Reims, un départ brutal. L'aventure commune entre le Stade de Reims et son entraîneur s'est achevée hier. Le jeune entraîneur anglo-belge aura dirigé 59 matchs en Ligue 1. Il faut rappeler également que dimanche, ce sera un jour particulier puisque ce sera l'opération Tous à l'Opéra. Eh bien, un livre d'hommage sera ouvert pour Serge Guémard, l'ancien directeur de l'Opéra de Reims, décédé tragiquement le 27 avril dans un incendie à son domicile. Au sommaire de notre édition, dans un instant, on retrouvera Jacques Cohen, puis Jean Barois, le maire de Villers-le-Tilleul, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, je l'ai déjà dit, et puis Hervé Chatriot qui nous parlera de la gare de Reims, Jean-Jacques Frémaux qui nous parlera de Cerzy-Prin, et puis le père Maxime Labelle qui parlera du canoë. Le vendredi, c'est bien sûr question d'actualité. On retrouve tout de suite Jacques Cohen au micro d'Alexis Claudretz.
La chronique d'actualité avec le professeur Jacques Cohen, avec nous par téléphone. Jacques, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, on parlait de la grippe chez l'homme et notamment des vaccins contre la grippe avec un retrait inhabituel. On va parler de quelque chose d'autre qui est inhabituel, mais chez les animaux cette fois, et plus particulièrement chez les bovins, des hôtes inhabituels pour la grippe. Jacques Cohen, que voulez-vous dire par là ?
Eh bien, les grippes sont connues pour passer différentes espèces, mais pas chez n'importe qui. Vous connaissez les grippes qui viennent généralement les volatiles du sud-est asiatique qui se répandent peu à peu en épidémie en passant chez l'homme, quand elles deviennent un peu moins mortelles et un peu plus transmissibles, est assez classique. Puis de temps en temps, il y en a une qui réussit les deux, ça fait des grippes graves. Jusque-là, on serait dans du standard. On a une grippe H5N1 qui a été pas mal répandue chez les volatiles. Il y a quelques centaines de cas humains, avec une mortalité non négligeable, mais une contagiosité relativement faible, ce qui fait que ce virus n'est pas pour l'instant en état de donner une pandémie. Et on a en revanche une chose imprévue qui est le fait de trouver que ce virus est passé chez les bovins. Alors c'est une question qui est peu connue, mais autant il y a des virus qui passent dans toutes les espèces, autant il y a des virus qui restent dans une espèce donnée, par exemple la variole restait dans l'espèce humaine, et ainsi de suite. Eh bien il y a des virus qui ont des familles de passage possibles et d'autres où ça ne les intéresse pas. C'est quelquefois lié à des choses qui pourraient paraître triviales, comme l'adaptation au point de vue de réplication à la température corporelle, qui, comme vous le savez, n'est pas la même chez les oiseaux, chez les humains ou chez les vaches, justement. Donc les grippes, c'était les oiseaux. De temps en temps, ça passe chez le porc, avec donc quelques précédents célèbres pour des grippes beaucoup plus graves. Et puis, jusqu'à présent, on n'avait pas de notion de n'avoir jamais trouvé sérieusement chez des bovins. Or là, c'est ce qui s'est passé. Donc la première idée, c'est de se dire qu'un virus capable de passer des oiseaux aux bovins, il est capable de s'adapter à n'importe quoi. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que de s'adapter à une niche particulière ne veut pas dire qu'il prendra un comportement de diffusion plus général ultérieurement. Ça oblige tout cela à reprendre des habitudes que le Covid a sérieusement bousculées. Mais les ennuis commencent beaucoup plus tôt. On avait, en 19e siècle et 20e siècle, des grippes graves environ 3 fois par siècle, comme la grippe espagnole ou celle de Hong Kong de 1968. On avait tous les 10 ou 12 ans des grippes moyennes, c'est-à-dire donnant quand même, si on peut dire, l'équivalent de la pagaille qu'a donné le Covid dans sa première poussée. Puis il y avait chaque année des grippes ordinaires. Selon les saisons, on a vu d'abord que depuis 68, il n'y a pas de grippe grave. Ça fait quand même un certain temps. Et la dernière grippe moyenne est une grippe de 1973, car depuis, on n'a eu que des grippes bénignes. Alors, comme il y a beaucoup de populations âgées, ça tue quand même quelques dizaines de milliers de personnes à chaque fois, les grippes normales. Mais enfin, on n'est pas dans la situation des grippes graves et encore moins des grippes moyennes. Et donc là, c'est la désorganisation du paysage grippal qui est une surprise. Pour plusieurs raisons, on ne sait pas très bien comment ça s'est produit, mais il y a plusieurs raisons pour que ça soit une surprise et que ça donne de l'incertitude. en effet, qui va à la chasse perd sa place. C'est-à-dire que la niche écologique des épidémies périodiques hivernales de grippe, si les grippes sont pas au rendez-vous, d'autres virus les occupent, comme par exemple le SARS-CoV-2 ou d'autres choses comme les VRS, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà un élément d'incertitude. Et est-ce que l'année suivante, la grippe va cogner à la porte et va reprendre sa place? C'est pas tout à fait sûr parce que, comme je vous ai dit, les niches écologiques, quand elles sont bousculées, il faut du temps pour les rétablir et puis le monde peut avoir changé et ainsi de suite. Donc, tout ceci indique, et ça c'est peut-être la leçon de cette inquiétude manifestée par l'OMS, tout ceci indique qu'on a beaucoup plus de risques que dans les années précédentes de voir quelque chose d'imprévu en matière de grippe et d'autre part c'est inéluctable. Et donc, il y a une chose importante, c'est de se préparer à faire les vaccins. Parce que les vaccins antigrippaux ont quand même 50-60% d'efficacité, ils diminuent considérablement la transmission, et ils ont une autre particularité, c'est qu'il faut les faire vite. Parce que dès qu'on sait quelle est la variante qui va circuler, qu'il faut se décider et lancer une campagne de production de masques. Car ces incertitudes donnent un défi aux fabricants de vaccins pour courir et être à temps à l'arrivée du virus, mais c'est aussi une façon de rappeler que la vaccination antigrippale, même si ce n'est pas une vaccination de protection totale de la population, est quand même quelque chose qui en allège considérablement la charge sur notre espèce, et en particulier sur les personnes âgées, mais pas seulement. Parce qu'il faut rappeler que les syndromes d'asphyxie respiratoire aiguë dans les grippes se produisent sur des sujets entre 20 et 30 ans, en parfaite santé, sans qu'on comprenne pourquoi, c'est eux qui vont justement en mourir abondamment. Si vous regardez la grippe de 1918-1919, dans la première vague, ce sont des sujets jeunes qui meurent, presque exclusivement. Dans la deuxième vague, il y a des surinfections pulmonaires, les personnes âgées meurent aussi. Peut-être que de nos jours, avec les antibiotiques, ils en seraient encore moins morts. Mais la capacité des grippes à tuer par surprise, j'allais dire, des personnes jeunes, est bien supérieure à celle du Covid, par exemple. Si on prend un ordre de grandeur, une grippe grave est 10 000 fois plus mortelle chez les sujets jeunes que le Covid. C'est quand même un énorme écart.
Jacques Cohen, lorsque l'on entend tous ces chiffres, toutes ces statistiques que vous nous donnez et toutes ces transformations possibles, on a quand même l'impression que la grippe, finalement, c'est un virus assez complexe qu'il est difficile de contrôler, de prévoir, de prévenir.
Effectivement, parce que c'est un virus qui mute beaucoup pour échapper dans une espèce à l'immunité induite par les épidémies précédentes, et puis qui là passe également en interespèce avec des espèces, j'allais dire, susceptibles à l'occasion, et puis d'autres où c'est vraiment exceptionnel. Et on avait un paysage relativement stable sur deux siècles qui s'est complètement désorganisé sans qu'on sache très bien pourquoi. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a des éléments auparavant, c'est-à-dire avant le 19e siècle. On voit quelques épidémies de grippe standard, mais on voit aussi que la grippe n'était pas au rendez-vous et que beaucoup d'épidémies respiratoires, à l'époque on disait épidémies catarrhales entre le 16e et le 18e siècle, ne sont pas des grippes. Donc le paysage grippal que l'on a connu n'était pas si vieux, avec sa périodicité, ses types de gravité, et il s'est estompé il y a peu de temps sans qu'on sache très bien pourquoi. Et donc on ne sait pas, comme toujours, quand il y a un bouleversement, par quoi il va être remplacé. Mais il faut qu'on soit très attentif à ça et très réactif, parce que c'est quand même un type d'infection respiratoire à transmission rapide qui, à l'échelle de population du globe, qui a quand même beaucoup augmenté depuis un siècle, peut donner des avalanches meurtrières très spectaculaires si on ne fait rien.
Par contre, Jacques Cohen, c'est vrai que vous nous avez parlé de plusieurs cas de grippe avec différents animaux cités. Alors, on n'a peut-être pas de réponse claire ou de réponse fixe à la prochaine question, mais de quels animaux viennent les grippes concrètement finalement? Est-ce qu'il y a un animal au départ plus qu'un autre qui peut être porteur de ce virus?
Oui, c'est tout à fait vrai. Les grippes sont endémiques chez les volatiles et en particulier, il est traditionnel que ce soit les canards en Asie du Sud-Est qui soient le réservoir et que ça se répande à partir de cette population-là. Pourquoi? On ne sait pas très bien, pour dire le vrai. Il y a parce qu'il y en a beaucoup et qui sont près des hommes, mais c'est peut-être pas une explication autre que tautologique. Donc, effectivement, on a l'habitude d'épidémies qui viennent d'Asie pour les grippes et qui se promènent des volatiles à l'homme ou des volatiles éventuellement avec un relais sur la grippe porcine, ce qui est beaucoup plus rare. Là, on n'est pas absolument certain, d'autant qu'il ne faut pas oublier que la grippe comporte aussi des grandes habitudes de variation pour éviter l'immunité acquise dans les fois précédentes sur ces deux molécules de surface principales qui sont H et N, c'est-à-dire l'hémagglutinine et la neuraminidase pour ceux qui voudraient s'intéresser à la structure des virus.
Là, on est arrivé dans des choses vraiment plus complexes. Je crois qu'il est l'heure pour tous nos auditeurs, en tout cas ceux qui s'y intéressent d'un peu plus loin, de vous laisser, professeur Jacques Cohen. Et puis pour les spécialistes, on en a rendez-vous sur votre blog d'ici quelques jours, jhmcohen.com. À très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Il faut savoir que ce week-end a lieu à Charleville-Mézières le Festival des Confréries. Il débutera avec un spectacle haut en couleur qui est le défilé d'ouverture. Et ce sera l'occasion, bien sûr, d'avoir une grande fête, en particulier sur la place Ducale. On va revenir dans quelques instants sur le programme de la semaine des vocations qui s'achève avec le pèlerinage. Mais tout de suite, on donne la parole à un maire de notre région, arrondissement de Reims, mais aussi des Ardennes, avec aujourd'hui Jean Barois, le maire de Villers-le-Tilleul. Jean Barois, bonjour.
Bonjour, voilà.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion de découvrir votre commune, une belle commune dans les Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter Villers-le-Tilleul? Combien d'habitants, monsieur le maire?
250 habitants.
Alors que font ces habitants? Des agriculteurs, mais j'ai appris aussi, on va en parler, qu'il y a un golf oui. Chez vous, le golf des Pourceaudes, et on va en parler. Alors, des habitants qui sont agriculteurs, qui sont...
Ah oui, il y a quatre grosses fermes, puisque maintenant, il y en avait 15 auparavant, hein, dans les années 50, aujourd'hui il y en a 4. Puis voilà, mais les hectares sont tous exploités, évidemment. Mais c'est pas le gros problème, enfin problème des agriculteurs, vous les connaissez, on en parle tous les jours. Bon, mais enfin, de toute façon, on ne va pas en parler. Mais les habitants sont majoritairement chez PSA, parce que l'usine Citroën est tout près, là. À un moment, on avait 10 foyers qui travaillaient chez PSA, hein, à peu près. Alors, puis le reste, ben, des retraités, mais il y a quand même, on a quand même eu 3 naissances l'année dernière.
Des jeunes qui viennent.
Aucun décès, oui, voilà, des bébés. Oui, voilà.
Mais vous-même, on peut dire que vous êtes Jean Barois, conseiller municipal depuis des années, vous avez été adjoint, et vous êtes maire depuis combien de temps, vous,
avec moi, j'étais élu conseiller municipal en 1977, et premier adjoint en 1989, et maire depuis 1995.
Et alors, monsieur le maire, justement, on va parler de Villers-le-Tilleul. Vous avez aussi, on peut le mentionner, d'autres responsabilités. Vous êtes maire, mais vous êtes président d'un certain nombre d'associations,
oui,
et groupements.
Voilà. Hein. Oui, je suis président d'un syndicat, ainsi vu le pôle scolaire Robert Gobez à Poitéron. C'est une école qui regroupe 9 communes. Nous avons 190 élèves environ. Par contre, là, moi, puisque ça fait 15 ans que j'y suis, on a eu jusque 240 élèves et on est à 190. Donc, c'est un
mais
peu
c'est un groupe, c'est un pôle scolaire important, hein, celui de Poitéron,
ben,
quand même.
Ben, hein. Ben, oui, c'est déjà quand même un gros pôle scolaire. Mais on a une baisse démographique, c'est ça qui est un peu gênant pour faire notre trésorerie, hein, parce que tout est lié à l'élève, hein, parce qu'on prend 1400 euros de... par élève pour gérer l'école.
Alors, monsieur le maire, parlons du golf, parce que c'est un golf qui mérite le détour. Il n'y a quand même pas beaucoup de golf dans les Ardennes, et là, c'est sur le territoire de votre commune. Et c'est très connu, d'ailleurs.
Ah oui, c'est le seul golf des Ardennes, avec un 18 trous, un putain de golf, avec un greenkeeper, enfin bref, un professeur, quoi, aussi, de cours de golf. Ils sont environ 250 adhérents. Mais c'est pareil, ils ont beaucoup de mal aussi à gérer ce club, parce qu'il y a quand même les jardiniers, il y a beaucoup de frais.
Il y a beaucoup d'entretien. Ah, bah, oui. Un golf, il faut que ça soit surtout, si c'est un golf 18 trous, renommé, il faut tenir le standing.
Ah ben bah oui, vous voyez bien, il y a là beaucoup de pontards. Enfin, vous voyez bien, un golf, comment c'est, il y a 4 salariés en pleine saison, il y a même une charge
beaucoup de frais. Beaucoup de frais. Oui, bah, oui. Alors, là, il y a un problème qu'on peut évoquer, mais parce que vous l'évoquez partout, vous l'avez évoqué au moment de vos vœux. Présentez-nous un petit peu la question. Il y avait un bâtiment important qui se trouvait à côté du golf, qui appartenait au conseil départemental des Ardennes, qui l'a vendu pour un projet immobilier. Expliquez-nous, et puis ça n'a pas marché.
Voilà, alors donc le département a vendu le site des Pourceaudes, hein, 35 hectares avec un corps de ferme, hein, où la société, je l'ai nommée, hein, Société Béjot de Belge, devait faire un projet touristique avec des gîtes, 3 gîtes, des cottages, des salles de réunion, séminaires, enfin les séminaires, enfin bref, avec une piscine, et tout est arrêté depuis 3 ans. Les terrains se trouvent sur un pas mal de terrains qui sont en zone humide. Vous savez que maintenant, on ne peut plus toucher aux zones humides où il faut des hectares de compensation. Ça a un peu bloqué le projet au niveau de la construction. Mais la ferme qui est existante, elle, ils avaient les permis de construire, hein, tout était accordé. Ils n'ont rien fait, tout est en train de se dégrader, les toitures sont envolées, les murs s'effondrent, alors, ça va devenir une ruine.
Ça, en quelque sorte, Jean Barois, vous lancez un appel, parce que il faudrait que ça soit repris. Et puis surtout, c'est pas loin du golfe, enfin je veux dire...
Côte à côte.
Alors
c'est
le golfe qui veut quand même du standing, il a à côté de lui maintenant des friches.
Oui, et puis le golfe, il cherchait des chambres, un hôtel ou des logements. Et comme sur le golf, la propriétaire voulait faire un hôtel, mais comme elle ne se trouve pas dans la carte communale, ces terrains, donc elle ne peut pas construire. Donc, mais sur ce terrain-là d'en face, où les Belges sont propriétaires, il y a possibilité de construire. Mais
alors, nos amis belges, parlons-en de ces amis belges. Eux, ils ont pas fait le projet prévu, mais ils sont toujours propriétaires de l'endroit. Donc, ils peuvent vendre à d'autres qui pourraient reprendre le truc. Mais alors, ils ont mis la barre tellement haut qu'il n'y a plus d'acheteurs. Il y a des acheteurs que vous voyez, mais ils n'ont pas l'argent nécessaire.
Voilà, les acheteurs que j'ai vus, moi, c'est moi qui ai pris de ce que les Belges demandent. Voilà, alors évidemment, ça, c'est pas vendu, ça fait 3 ans que c'est pas vendu, les prairies sont même pas fauchées, tout est en friche.
Alors ça, c'est quelque chose quand même, vous avez alerté les pouvoirs publics, les aides des parlementaires.
Oui, voilà, d'accord.
Alors on peut espérer quand même, parce que vous-même, Jean Barois, vous en recevez des personnes qui seraient éventuellement intéressées.
Oui.
Donc il y a quand même des gens intéressés qui viennent. Cela dit, ils proposent la moitié du prix que proposent les Belges.
Voilà, tout à fait.
Alors il faut espérer que les points de vue se rapprochent, que les Belges propriétaires soient moins exigeants, et puis que les autres rajoutent un petit peu pour que puis... Alors est-ce que les collectivités locales peuvent aider? Je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent plus s'engager non plus.
Mais si, la région Grand Est, vous savez, ils ont un gros projet de rénovation du patrimoine. Enfin là, parce que c'est quand même patrimoine, c'est une ferme du 16e siècle ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas classé, mais enfin, les dépenses pour remettre en état sont tellement énormes que les subventions ne seront pas à la hauteur. Il faut plusieurs millions d'euros. Enfin,
en tout cas, s'il y a une aide de la région, c'est toujours ça de prix pour un éventuel repreneur. Donc peut-être que si vous aviez des assurances de la part du conseil régional, en mettant ça dans la balance avec un repreneur qui vient vous voir, peut-être qu'il se laissera convaincre s'il sait qu'il aura une petite aide supplémentaire. Enfin, faut espérer.
Voilà. On l'avait signalé, cette chose-là. Mais bon, les Belges, c'est une agence immobilière belge avec qui les clients vont voir. Ils n'ont pas de pouvoir de négociation, semble-t-il, pour l'instant.
Oui, disons qu'en parlant clairement, nos amis belges, on aime bien les Belges, mais là, ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Ils ne sont pas très conciliants, quoi.
Voilà.
Écoutez, Jean Barois, on a encore une minute avec vous. C'est une belle commune, Villers-le-Tilleul. D'ailleurs, rien que dans le nom, d'ailleurs, le Tilleul. Mais vous faites ça via un doux, le Tilleul, c'est...
Mais parce qu'il y a quand même pas mal de tilleuls, il y en avait à tous les coins de la commune, à chaque entrée il y avait des tilleuls, bon, il y en a qui sont disparus ou qui sont morts, mais on en a replanté nous, puisque c'est quand même le but d'en garder, hein. On en a replanté. Donc, mais on a fait quelques travaux aussi de voirie, on a fait de l'emplissement, on a fait un rond-point, vous avez bien.
L'embellissement du village. Ben, écoutez, Jean Barois, je vous promets, parce que vous êtes dans nos petits carnets, c'est de refaire une émission avec vous, parce que on a fait le tiers de ce qu'on devait faire dans cette émission qui dure 9 minutes. On vous rappelle d'ici un mois et demi, avant la fin de l'année, bien entendu, la fin de l'année scolaire, avant le mois de juin. Et puis, on reparlera de tout ça. Peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Vous rendez compte, un repreneur.
Si votre antenne touchait quelques personnes qui seraient intéressées ou nos amis les Belges, les propriétaires qui pourraient évidemment baisser un peu les prix, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose.
En tout cas, on lance cet appel que Villers-le-Tilleul, ça vaut le détour. C'est une belle commune des Ardennes avec le golfe des Pourssaudes qu'on connaît bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean Barois, et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Le 18-19 sur RCF.
Depuis lundi dernier, la marche des vocations, le pèlerinage des vocations se déroule avec les 7 diocèses qui se mettent ensemble et qui vont se retrouver demain, samedi. L'occasion pour nous ce matin en direct d'avoir sur notre antenne Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, mais aussi président de la conférence des évêques de France. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en direct avec nous au cœur de cette semaine de marche pour les vocations qui a démarré lundi dernier. C'était déjà, ça semble déjà loin maintenant, le démarrage depuis les Hauts-Butais. Comment se passe cette semaine, Monseigneur, de façon générale?
Écoutez, globalement, elle se passe très bien. Je suis touché que nous en parlions et puis tout à l'heure, ce soit dans un instant le sujet principal de RCF aussi à 7h10. Ça se passe bien. Nous avons eu les 4 premiers jours vraiment du très beau temps. Hier, une belle pluie. Aujourd'hui, nous verrons bien. Mais surtout, ce qui est très touchant, c'est toutes les rencontres que nous pouvons faire. Et puis, l'intensité de notre prière. Et je dois dire, pour moi, c'est très agréable d'avoir une semaine où je ne fais qu'une seule chose, cette marche, en étant concentré sur la demande que le Seigneur nous donne les ouvriers nécessaires pour la moisson.
Il faut dire qu'à chaque fois, suivant l'itinéraire et l'étape, il y a des petits groupes de pèlerins qui vous accompagnent et de diocésains qui sont un peu différents tout de même à chaque fois.
Voilà, tout à fait. Donc, ils ont commencé avec une quinzaine, puis une trentaine, et puis à Nevisy, comme c'était aussi l'ouverture du pèlerinage, il y avait beaucoup plus de monde. Et puis hier, un bon groupe qui a marché avec nous sous la pluie toute la matinée, un groupe un peu plus restreint mais très courageux l'après-midi. Et chaque fois, c'est l'occasion pour moi, pour mon Seigneur Véteux, de rencontres intéressantes, outre la découverte de paysages, parce que quand on marche, on va plus lentement, donc on a le temps de s'intéresser et à ce qui est autour de nous et aux personnes avec qui on marche.
Alors aujourd'hui, Monseigneur, dans 2 heures hein, maintenant, il y aura l'office des Laudes à Verzy, le pique-nique à midi, une messe à Rillé-la-Montagne à 17h30, une veillée de prière à 20h chez les sœurs Clarisse à Commontreuil. On peut rappeler aux diocésains qui nous écoutent qu'ils peuvent se joindre bien sûr à la marche, il faut être là à 9h, mais ils peuvent venir à 17h30 à la messe à Rilly, à la veillée de prière, ils peuvent se greffer aux différents moments de la journée.
Tout à fait, ils peuvent venir au moment du déjeuner par exemple, et puis marcher jusqu'à Rigny, et puis un système de voitures pour amener à aller chercher les voitures qui sont restées au point de départ. On va quand même plus vite en voiture qu'à pied, donc on peut faire ça facilement.
Alors il faut dire que c'est, on l'a beaucoup évoqué aussi avec Monseigneur Véteux qui avait été à la grâce rencontrer des séminaristes, comme vous l'avez fait aussi Monseigneur, et puis des séminaristes de Paris, ce sont tous ces séminaristes et puis tous ceux qui un jour ont ressenti cet appel, qui peuvent être interpellés aussi. C'est un moment de prière aussi pour l'ensemble des diocésaines et diocésains.
Exactement, bien oui, nous sommes persuadés qu'il y a des jeunes que Dieu appelle, aussi bien être des prêtres qu'être religieux ou religieuse. Et l'Église en a besoin, mais il faut que nous manifestions notre désir, notre besoin aussi, qu'il y ait des ouvriers pour la moisson, des hommes et des femmes qui nous rappellent la radicalité, la force de l'Évangile, qui nous rappellent aussi la proximité du royaume de Dieu. Et donc voilà, il faut que dans un monde un peu bouleversé, des jeunes hommes, des jeunes femmes aient le courage, la générosité, la liberté de se laisser entraîner par l'appel du Seigneur. Donc voilà, en donnant un petit peu de visibilité à cette prière, nous espérons aussi fortifier ceux et celles que Dieu peut appeler.
Il faut dire, Monseigneur, que les 7 diocèses de la province se mobilisent en ce moment. D'ailleurs, le réseau RCF, ça vient d'être annoncé, on reparlera à 7h10 le matin, en tout cas pour ceux qui sont avec nous en direct. Et puis, demain, samedi, c'est le grand rendez-vous où tous ceux qui se trouvaient dans les diocèses vont se retrouver d'une certaine façon.
Voilà, exactement. Donc, notre idée initiale, hein, c'était de marcher chacun de son diocèse et puis de converger vers Reims pour porter tout cela ensemble. Alors on le fait avec des sauts de puce et un peu de car ou de voiture. Mais donc demain, il y aura différents points de départ pour pouvoir converger à la cathédrale. Et pour nous, hein, ce sera Saint-Nicaise à 9h.
Saint-Nicaise à 9h. Tout le monde, bien sûr, est invité à participer à cette marche qui va aller de Saint-Nicaise jusqu'à la cathédrale. Et là, à la cathédrale, il y aura une démarche commune de pèlerinage avec les 7 diocèses, Monseigneur.
Exactement. Et puis elle sera suivie par un temps pour découvrir la cathédrale et puis y porter notre prière. Et puis ensuite, à partir de midi et demi, je crois, on se retrouve à la Maison Saint-Cygre, dans les locaux de l'Institut catholique de Paris, que je remercie de nous accueillir, pour déjeuner. Et puis après, il y a toutes sortes d'activités
avant le concert et la matinale.
Oui, l'après-midi, d'ailleurs, tout le monde est invité. À 11h, comme vous l'avez dit, la démarche de pèlerinage dans la cathédrale, le pique-nique à midi et demi, du théâtre l'après-midi, des ateliers sur les vocations d'adoration, des tables rondes, des contes, des chants et jeux pour des enfants et des jeunes, puis louange à la basilique Saint-Rémy et la messe de clôture à la basilique Saint-Rémy. On peut dire que c'est quand même un moment fort, d'ailleurs, qui est relayé par des médias nationaux, même RCF va en parler tout à l'heure, mais que ce soit KTO, que ce soit La Croix, on en parle, parce que c'est une initiative qui est quand même d'une certaine façon originale, elle rassemble tous ces diocèses.
Tout à fait, je remercie France 3, d'ailleurs, Champagne-Ardenne, d'en avoir parlé dès lundi, et effectivement, ça attire l'attention. On voit bien que l'idée qu'il y ait des prêtres est sympathique à tout le monde, donc il faut, même si l'image du prêtre a été abîmée par la crise des abus, il n'en reste pas moins que beaucoup de gens sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu à travers des prêtres. Et il faut travailler à avoir des prêtres qui soient vraiment des ouvriers de la moisson du Seigneur Jésus. C'est ce que nous demandons dans cette semaine de prière.
Question qui est un peu marginale, Monseigneur, mais quand même, pour vous, c'est pas une étape à chaque fois, ce sont des étapes qui s'ajoutent. Les kilomètres à la fin, ça pèse pas trop, non, quand même, au bout de 8 jours?
Ah non, vraiment, je veux dire, j'ai la chance de marcher très facilement, j'ai des chaussures auxquelles je suis bien habitué, qui sont bien habituées à moi, donc je n'ai pas d'ampoule. Et non, je porte ça facilement. Voilà, j'ajoute que tout en marchant pour entrer en cette intention, nous n'oublions pas de prier pour la paix aussi. Hein, l'actualité est forte autour de toujours ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et c'est une grande souffrance quand même de voir cette population qui est pour le coup sous le coup des bombardements et des destructions et en pleine guerre. Pensons aussi à l'Ukraine, évidemment. Donc le droit international doit être respecté par tous les États et il faut que la communauté internationale le fasse savoir avec toujours plus de force.
Alors on vous souhaite, bien sûr, c'est une belle dernière journée de marche avant le grand rendez-vous de samedi prochain. On aura l'occasion de vous retrouver certainement à l'Institut catholique de Paris au moment de la pause où nous serons là également avec RCF. Et puis la semaine prochaine, eh bien, vous allez reprendre, j'allais dire, le bâton de pèlerin hors des chemins de marche, mais sur des chemins qui sont aussi remplis de rencontres.
Tout à fait, parce que je vais commencer par maintenant lundi, mardi, et puis après je pars pour Madagascar où je dois rencontrer la conférence des évêques. Donc la semaine prochaine sera un peu spéciale.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est avec nous ce matin. Là, sans être indiscret, vous êtes à Muison, vous êtes à Hermonville, vous êtes où exactement, Monseigneur, là ce matin?
À Muison.
Vous êtes à Muison.
Avant de regagner les Laudes.
Alors vous allez regagner les Laudes, bien sûr, nous sommes en communion de prière avec vous et puis avec tous les diocésains de Reims et des Ardennes qui vous accompagnent déjà sur nos ondes, en tout cas depuis lundi, ou qui vous accompagnent sur le terrain. Merci Monseigneur d'avoir été avec nous dans une poignée de secondes. D'ailleurs, je crois que sur RCF, on va revenir sur cette semaine d'évocation. Merci Monseigneur et puis à très très bientôt. Très belle journée aujourd'hui et à bientôt, et à demain. Au revoir.
Merci. Merci à tous et à toutes.
Au revoir.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Alors vous l'avez entendu et nous reprenons un peu cette information, une journée importante, demain samedi, ce sera en province, comme on dit, avec les 7 diocèses. Rendez-vous pour Reims, c'est à l'église Saint-Nicaise, pour une marche vers la cathédrale. À 11h, une démarche de pèlerinage dans la cathédrale avec les 7 diocèses. Un pique-nique à 12h30 à l'ICP, l'Institut Campus de Reims, l'Institut catholique de Paris. L'après-midi, bien sûr, des animations tout public avant de retrouver une louange à la basilique. On vient de le dire avec l'archevêque de Reims, mais on le rappelle parce que les gens vont prendre les choses en route. Ils ne sont pas obligés d'aller à toute la journée, mais de choisir en fonction de leur disponibilité et aussi de leur possibilité de se déplacer avec à 18h une messe de clôture à la basilique Saint-Rémy. En attendant, eh bien, nous n'allons pas pèleriner en marchant, mais plutôt prendre le train. du côté de la gare de Reims. Reims la Magnifique, c'est le surnom, ou plutôt la dénomination de la gare depuis sa création à Reims en 1854. Et pour nous en parler, il aime les gares, il est à la direction régionale en Champagne-Ardenne des gares de chemin de fer de la SNCF, Hervé Chatriot. Hervé Chatriot, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on vous avait retrouvé il y a quelque temps dans une première émission, oui, où on découvrait votre livre, j'allais dire, magnifique, un magnifique livre. Mmh. C'est Reims la Magnifique, c'est le nom de la gare de Reims qui a toute une histoire. Et ce livre est exceptionnel parce qu'il raconte l'histoire d'une gare depuis l'origine, le chemin de fer. On avait évoqué dans la précédente émission la création de cette gare, 1854, qui avait bouleversé la ville de Reims. C'est une arrivée exceptionnelle, l'arrivée du chemin de fer. Quelles sont les grandes dates que vous retenez, les grands moments de cette gare de Reims?
Alors, toute la constitution de l'étoile ferroviaire avec les différentes lignes, ça, ça a été un grand bouleversement et ça a vraiment été quelque chose de très important sur le développement économique. Après, ce que j'en retiens, c'est que la gare de Reims, elle a traversé aussi notre histoire et l'histoire aussi des Rémois. Et je pense surtout aux guerres. On pense souvent à la première et la deuxième guerre, Jean-Pierre.
Bien sûr.
Mais il y a eu la guerre de 1870.
La guerre de 1870, c'est vrai qu'elle passe plus.
La gare de Reims a été traversée par plusieurs guerres.
Et bien entendu, à chaque fois, des dommages considérables. Il a fallu reconstruire, il a fallu refaire cette gare.
Oui, mais il y a eu aussi de beaux faits d'armes. Il faut savoir que, par exemple, en 1870, le chef de gare, un certain monsieur Mencier, eh bien, il va entreprendre une expédition et il va aller même récupérer du matériel aux Prussiens. Et donc, il part à l'assaut. Et d'ailleurs, il aura donc la Légion d'honneur pour fait de guerre. Ce sera le premier chef de gare pour avoir la distinction d'être chevalier de la Légion d'honneur pour fait de guerre.
C'est incroyable. Alors c'est vrai qu'on a dans une gare aussi toute l'évolution à la SNCF, évidemment. Avant, il y avait des compagnies, on pourrait y revenir largement, du matériel, machines à vapeur, puis ensuite les trains, puis aujourd'hui le TGV. Donc quelle évolution! Mais en même temps, c'est vrai que votre livre nous apprend quelque chose sur la ville. D'ailleurs, vous avez cherché des archives dans la gare, mais il y en avait peut-être peu. Mais vous avez, dans la presse locale ou à l'extérieur, par des rencontres avec Patrick Demuy, avec Pierre-Emmanuel Tétinger, ouvert des espaces et des horizons qui donnent à votre livre une dimension beaucoup plus grande que simplement l'histoire du bâtiment lui-même.
Oui, je voulais pas me rester sur le côté bâtiment, où finalement il n'y aurait pas eu de vie. J'ai voulu savoir quelle est la vie qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai consulté énormément de documents, mais également j'ai fait de très belles rencontres. Et ça m'a permis de découvrir certains faits divers ou de choses totalement incongrues.
L'arrivée de Buffalo Bill, c'est le vrai Buffalo Bill.
Ah, c'est pas
Buffalo Bill, c'est en quelle année alors?
1905, William Cody.
Il arrive en train.
Mais pas en seul train. Il va 3 trains spéciaux, 65 wagons, 800 hommes, 500 chevaux. Donc c'est quand même une belle logistique.
Mais alors les chevaux étaient dans les trains?
Ah oui.
C'est extraordinaire.
Il faisait une tournée. C'était une tournée d'exhibition. En fait, c'était un spectacle qu'il faisait de ville en ville. Donc il est venu à Reims pendant 3 jours. C'était au mois de juillet. Et c'était un spectacle énorme. Énorme. Et tellement extraordinaire que les journalistes d'époque diront « Il a été possible de faire le tour du monde en 80 jours. Nous, à Reims, on a pu le faire en 2h30. »
C'est un spectacle. On parle aujourd'hui des grands spectacles comme le Puy du Fou, comme ailleurs. Là, il y avait une imagination, une créativité exceptionnelle avec Buffalo Bill.
Exactement. C'était une démonstration avec les chevaux de tir exceptionnels. Vous aviez en fait une pléthore de nationalités. Vous y aviez des Japonais qui côtoyaient les Chinois ou alors les Indiens. Il y avait des tribus d'Indiens. Il y avait 86 Indiens qui se sont venus et montré leur talent, je dirais, équestre ou au tir.
Et ils sont arrivés, bien sûr, à la gare de Reims. Il y a eu sans doute, bien sûr, Hervé Chatriot, des présidents de la République qui sont venus, des personnalités importantes qui sont passé par la gare, évidemment.
Oui.
Vous en avez quelques-unes en tête.
Oh oui, moi, ma préférée.
À dites voir. Quel est votre préférée?
Alors, c'est Nikita Khrouchtchev, qui a été reçu d'ailleurs par Jean Tétinger.
Absolument.
Et en fait, il est reçu dans les années 60.
Il était arrivé en train, Nikita Khrouchtchev.
Ah, bah, bien sûr
qu'il voyageait en train.
Oui. Il voyageait en train. Il faisait tout un parcours au niveau de la France.
Pas d'avion pour Nikita Khrouchtchev. Il a pris, bon, pour aller aux États-Unis, il est allé une fois.
On va dire train plus avion.
Train plus avion. Mais c'était un événement.
C'était un événement et il a été particulièrement reçu. Et le détail qui est assez amusant, c'est que c'était à cette époque-là la fin des locomotives à vapeur. Mais il fallait faire bonne figure à Reims. Du coup, on les a repeintes, les locomotives à vapeur. Mais uniquement que du côté où elles auraient pu être visibles.
Ah, mais ça, c'est les économies de la SNCF. Voilà. On peint d'un côté le wagon, mais il fallait pas tourner de l'autre côté.
Exactement.
Mais, alors, c'était des beaux wagons tout rutilants, on imagine.
Ah bah oui, oui, tout à fait. Mais au-delà, il fallait pas donner l'impression que la France, que la ville, j'aurais un peu négligé son matériel. Donc, il fallait faire bonne figure. Et pour faire bonne figure, eh ben, même sur les anciens matériels, eh ben, on leur donnait un petit coup de jeune, mais que d'un côté visible, c'était vraiment que pour la forme.
Alors, évidemment, la gare, quand on regarde, on se dit, y a rien, on rentre, on prend son billet, on est sur le quai, bon, y a rien à voir. En fait, il y a toute une logistique, bien sûr, à la fois aujourd'hui technologique, et puis il y a aussi la rotonde, enfin, on refait aussi des trains, on les entretient, et puis il y a le fameux Vladimir qui reste quand même la locomotive. Dans une gare, on aime conserver un train.
Oui. En fait, grâce à l'impulsion de Corinne Deville Tettinger, la mère de Pierre-Emmanuel Tettinger, on a pu garder la 8e locomotive au monde, la 140C, donc 313. Il ne reste plus que 8 au monde. Et en fait, elle a une histoire assez fantastique. Et donne d'ailleurs, dans cette gare où tout le monde est pressé, quelque chose qui est assez affectif, sensitif. Et c'est quelque chose qui est quand même remarquable d'avoir ça en gare.
Combien, alors vous n'avez peut-être pas le chiffre en tête, de personnes passent, par exemple dans la gare centrale, on ne va pas parler de la gare TGV à Besançon, mais la gare centrale de Reims, par an, il y a plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes.
On dit souvent, on a à peu près à 4 millions de voyageurs par an, et où on rajoute peut-être 1 million de personnes qui ne font que de transiter par la gare, de traverser pour aller de quartier à quartier.
Alors il est vrai qu'avec les travaux, avec l'esplanade aujourd'hui, il y a une ouverture bien sûr sur cette gare. Vous êtes, on peut dire, amoureux des gares. Vous aimez les gares.
Oui. J'avoue que j'y peux rien. C'est pas ma faute. Je suis tombé comme ça.
Et pas seulement celle de Reims. Vous avez été à Charleville, Revin, enfin, vous êtes allé ailleurs. Mais celle de Reims particulièrement.
Oui, c'est vrai que j'ai un certain attachement à cette gare. Alors, c'est peut-être son histoire, son implantation. J'ai eu aussi un attachement au niveau de la gare de Charleville, avec la couleur de ses volets, ses menuiseries, où j'ai été assez sensible. Et peut-être, voilà, simplement que je suis resté un peu plus longtemps à la gare de Reims et je me suis un peu plus pris d'affection. Voilà.
Alors, on termine parce que le temps passe très très vite. On fera une troisième émission un autre jour. Je le signale, on l'avait déjà dit dans la première, en dessous de la gare de Reims, et il y a des adeptes du sport, du tir. Il y a un stand de tir juste en dessous des tickets quand les gens passent au-dessus. Ça, les gens ne le savent pas.
Les balles sifflent sous la salle des pas perdus. Alors, effectivement, c'est du tir sportif, que ça soit à pistolet ou
en
carabine.
Merci Hervé Chatriot de la direction des gares de Champagne-Ardenne d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre, Reims, la magnifique. J'allais dire, bon, c'est banal, mais c'est un livre magnifique, lui aussi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci à vous.
Le 18-19 sur RCF.
Si vous aimez la nature, la campagne, mais aussi de conjuguer les distractions avec la culture, c'est l'occasion de découvrir le festival de Cerisy-et-Prin. Pour nous en parler, Jean-Jacques Frémaux, il est avec nous. Jean-Jacques Frémaux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous parce que nous allons vivre un événement comme chaque année, mais qui est aujourd'hui et cette année exceptionnelle. Du 17 au 20 mai, c'est à Cerisy-et-Prin des expositions où l'art et le patrimoine sont mis à l'honneur. C'est un rendez-vous habituel, mais cette année, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses.
Voilà, oui, cette année, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, on était parti sur l'idée de faire une exposition de photographies d'exploration urbaine de Sébastien Lopin, photographies qui ont été faites dans la minoterie, qui est une friche industrielle abandonnée depuis une cinquantaine d'années.
Jean-Jacques Frémaux, il faut préciser quand même aux auditeurs et aux auditrices des Ardennes et de la Marne que Cerisy-et-Prince est un village de combien d'habitants, Jean-Jacques?
Alors, je crois que c'est 211 habitants et ça fait partie du Grand Reims.
Vous les avez tous recomptés. C'est bien 211 et pas 212. Hein.
Ah, je ne suis pas si sûr.
Donc, il y a 211 habitants à Cerisy-et-Prince. Combien de kilomètres de Reims?
25 kilomètres à peu près.
25 kilomètres. Et l'objectif de votre rencontre du 17 au 20 mai, tous les jours de 14h à 19h, c'est de parcourir Cerisy-et-Prince, de découvrir des photos, des expositions, mais aussi... Et cette année en particulier, le patrimoine.
Tout à fait.
Alors on s'arrête dans une minoterie qui est complètement inutilisée depuis pas mal d'années.
Voilà.
Mais on va dans cette minoterie.
Alors on ne va pas dans la minoterie.
On va dans l'entrepôt.
On va dans un entrepôt où on a recréé une ambiance de minoterie avec une mise en lumière, avec une bande-son qui évoque la minoterie. Il y a un cours d'eau qui coule et puis il y a des bruits. Comme c'est une friche industrielle, il y a des bruits d'oiseaux, il y a des bruits d'avions, il y a des bruits de corbeaux, des chiens qui passent. Et puis, il y a aussi l'évocation du passé, avec des bruits de machines.
Alors, vous mettez tout le monde dans le coup, par exemple, avec Véronique et Jean-Jacques Valette, des cartes postales.
Voilà, alors, ils m'ont proposé, Véronique et Jean-Jacques Valette, font un gros travail sur Reims, depuis une douzaine d'années, ça s'appelle Reims Avant. À partir de cartes postales anciennes, ils font des vues actuelles de ce qu'est Reims. Et ils m'ont proposé de faire la même chose pour Cerisy. Et on a la chance d'avoir une habitante de Cerisy qui a une collection très complète de cartes postales de Cerisy qu'avait commencé sa tante. Et ils sont partis de cette collection-là pour refaire des prises de vue.
Alors on le dit à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est l'occasion d'une balade dans le village. Parce que, on imagine, 17-20 mai, il va faire beau, on le souhaite, 14h-19h, on se balade dans le village. Et puis on voit des expositions d'artistes, que ce soit au Point Info, au Pressoir, au Cellier, dans la cour Cochon, sur le parking, dans la grange. Il y a des lieux assez exceptionnels et puis il y a des expositions, surtout beaucoup de photos quand même.
Alors il y a un peu de tout quand même. Hein. Il y a des photos, il y a un film expérimental, il y a Bulle Batala qui expose ses photographies, Patrick Fabry, il y a aussi effectivement Sébastien Lopin avec les photos de la minoterie, parce que c'est des photos d'art qu'il fait. Et puis il y a de la sculpture. Il y a de la sculpture avec Daniel Bouvier, il y a des arts plastiques avec Anthony RSM et puis Marianne Zuba-Caruso qui va faire un arbre sur un espace bordant la rue principale de Cerisy.
Oui, vous avez des sculptures aussi avec Daniel Bouvier, mais aussi avec Nikita Bayet, avec des peintures avec Patrick Bayet, des assemblages d'objets. Enfin, bref, on découvre des artistes.
Tout à fait.
Et on peut discuter avec eux.
Et on peut discuter avec eux. Ils sont là pendant tous les moments d'ouverture. Et en fait, l'idée de cette manifestation, c'est d'ouvrir l'art au plus grand nombre. C'est pour ça que l'entrée est gratuite. Hein, c'est en entrée libre. C'est accessible à tous. Et c'est effectivement pour montrer qu'il y a plein de belles choses et qu'il faut s'entourer de beaux.
Et puis on peut quand même découvrir aussi le village en passant, c'est-à-dire l'église, le lavoir, la ruelle de la chapelle, alambic, la minoterie Saint-Lô, bon, qui n'est plus utilisée. On peut se promener, ça c'est très important.
Tout à fait. Alors nos visiteurs, depuis plusieurs années, ça leur a beaucoup plu cette itinérance dans le village. En gros, il y a les deux extrêmes, il y a un petit kilomètre à parcourir, et dans ce kilomètre à parcourir, on découvre l'alambic dans une petite ruelle, on découvre un sentier pédestre de derrière les murs où il y aura une exposition de photographie sur la biodiversité et la faune à Cerisy. Donc c'est un projet de la municipalité que la municipalité a entrepris il y a déjà quelques années. Et puis après, on se retrouve dans une des rues principales de Cerisy, qui est une rue très ancienne, avec un habitat de vieilles maisons de pierre, et qui nous mène jusqu'à la minoterie.
On a même des silex taillés avec un artiste qui taille les silex polis de la vallée de l'Arve, Marc
alors,
de Villiers.
Alors, c'est un découvreur. En fait,
c'est un découvreur.
En fait, si vous voulez, après le labour, on est entouré de bois, mais aussi de vignes, mais aussi de champs. En fait, après le labour, à l'automne, et les pluies...
On retrouve des silex.
Vous retrouvez les silex qui sont à fleurs. Donc, il y a même pas... Vous fouillez pas. C'est juste qu'ils sont à fleurs.
Ils sont montés comme ça.
Ils sont montés. Et moi, une fois avec cet homme-là, Marc de Villiers, j'étais avec lui, j'ai trouvé un petit couteau. Voilà, en silex, un couteau de 7-8 cm.
Alors, on ne sait pas de quelle époque ça date.
Alors, c'est plusieurs millénaires, hein, ça c'est clair.
Ça, c'est quand même impressionnant. Voilà. Pour Reims, il suffit de suivre quel itinéraire pour venir.
En fait, il faut prendre la route de Soissons et à Jonchery-sur-Vesle. On tourne à gauche, direction Branscourt, Savigny-sur-Arde, et on est à Cergy.
Et puis on a un GPS, on peut marquer Cergy-Éperin.
Voilà. Et puis il y a un site internet où on retrouve tout ce que je viens de dire, qui s'appelle www.lapartdelambre.fr.
Et puis aussi au Point Info, le vendredi en particulier, des conférences avec Dominique Charret, Olivier Daubercy et Willy Dubos,
oui,
sur le pain. Ça, c'est aussi intéressant, la dégustation du pain, parce qu'il y avait des moulins à Cergy-Éperin.
Tout à fait.
Vous parlez du pain, c'est normal.
Ben voilà. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'en partant de la minoterie, c'était clair qu'il fallait parler du pain. Et donc, Dominique Charret, de l'association Entre deux terroirs, a cherché de la documentation et tout. Elle a découvert qu'il y avait eu deux moulins à Cergy. Et donc, elle va faire une conférence là-dessus.
Sur les meuniers.
Sur les meuniers.
Hein. Alors, il y a aussi Richard Dupuis qui parlera patrimoine. Oui. Et Olivier Daubercy, Willy Dubos, on l'a dit. Et puis, les amis des Moulins Marnais qui vont présenter les ouvrages édités par leur association sur les moulins du département. Vous avez trouvé quand même une cohérence, je veux dire un conducteur autour de la minoterie, du pain, des territoires.
Tout à fait.
Alors ça, c'est une très très bonne idée de balade. En tout cas, entre le 17 et le 20 mai, c'est de 14h à 19h. Venez nombreux et puis on y sera, Jean-Jacques Frémaux. On vous accompagnera.
Bien volontiers.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous et puis on en reparlera dès que possible. Merci Jean-Jacques Frémaux.
Eh ben merci Jean-Pierre Benoît.
Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On a beaucoup parlé de pèlerinage, d'évocation. Il en est un qui se prépare pour le week-end de l'Ascension. Il faut espérer qu'il y ait une bonne météo, ce sera la semaine prochaine, avec la possibilité pour des jeunes de participer à un pèlerinage canoë. Pour nous en parler, le père Maxime Labesse, il est au micro d'Alexis Claudrette.
C'est une proposition qui, dans la suite du Kanski Prière et du Pélé AVTT, qui permet aux jeunes de vivre une expérience forte à la fois de vacances et en même temps de recherche spirituelle, de formation et encore une fois, comme le Pélé AVTT, de découvrir la richesse de notre beau paysage. Qu'on a d'abord recruté un moniteur qui a les diplômes nécessaires pour encadrer l'activité du canoë et qui sera avec nous pendant les 4 jours et c'est lui qui dirigera l'activité canoë. Et puis, on est en itinérance, on campera de lieu en lieu, comme on le fait avec le pèlerinage AVTT. Et voilà, on est accueillis dans différents lieux de notre diocèse, de différentes paroisses, pour célébrer, être accueillis, découvrir ces lieux. Un petit mélange de tout ça, parce que à la fois toujours très très heureux de pouvoir lancer de nouveaux projets, et puis de pouvoir aider nos jeunes à pouvoir grandir dans la foi. C'est quand même notre premier projet, et c'est ce pourquoi on veut faire cette proposition. Et en même temps, quelques appréhensions, parce que c'est une organisation nouvelle, avec une activité nouvelle, un fonctionnement nouveau qu'il faut découvrir, et on le fait en équipe, heureusement. Donc voilà, c'est en même temps une belle aventure, et on sera heureux de pouvoir rejoindre les paroissiens qui nous accueilleront particulièrement à Sedan, à la messe du lieu eucharistique le jeudi de l'Ascension. Et puis, le dimanche 12 mai aussi, on sera au lieu eucharistique à Revin pour la messe paroissiale. Et ce sera des moments aussi où on pourra rencontrer les gens qui nous accueilleront.
Le 18-19 sur RCF.
Eh bien oui, ce magazine s'achève. Merci de nous avoir accompagnés. Vous savez que demain, on en a parlé beaucoup dans cette édition, On se retrouve à Reims pour la fin de ce pèlerinage des vocations. À noter que demain, samedi, eh bien, il y aura peut-être de nouvelles averses, mais le soleil peut encore percer à travers les nuages. Les températures maximales l'après-midi de 16 à 17 degrés, les minimales de 5 à 6 dans le département des Ardennes et dans le département de la Marne. En attendant, très bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF et dans une poignée de minutes à 19h, le Journal National.